Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Franck qui nous fait le récit de la bataille de Poitiers sur Europe 1.
Qui est-il, ce Charles Martel? Eh bien, c'est un enfant naturel de Pépin d'Héristal ou d'Herstal, maire du palais du royaume d'Austrasie depuis 680. L'Austrasie, c'est le royaume franc du nord-est de notre France actuelle, avec Metz pour capitale, déborde d'ailleurs légèrement à l'est, royaume rival de la Neustrie au nord-ouest. Je vous dis que Charles est un enfant naturel, donc un bâtard de Pépin. À l'époque, chez les Francs, c'est tout à fait banal. Les chefs ayant couramment plusieurs concubines, on a eu l'occasion de parler des Mérovingiens il y a peu de temps à cette antenne, et leur faisant des enfants. Ce qui est moins banal, c'est que deux de ses arrière-grands-pères étaient des saints, Saint Pépin de Landenne et Saint Arnoux, qui avait été évêque de Metz. Charles a été élevé par sa mère dans une optique bien particulière. Il est pétri d'ambition, il rêve de devenir à son tour maire du palais. Il va le devenir, tant il est vrai que rien n'arrête une ambition obsessionnelle quand elle est bien secondée. Or, au moment où il devient maire du palais d'Austrasie, ce royaume a déjà englouti la Neustrie. Pépin, le père de Charles, a accompli cet exploit. Donc c'est un homme d'une grande puissance. Comprenez l'importance d'un maire du palais, hein. C'est le véritable homme fort du royaume à une époque où le roi n'est plus grand-chose, souvent un adolescent dont la vie ne tient qu'au bon vouloir de ses rivaux. On se rappelle la célèbre formule de Fustel de Coulanges pour désigner le régime mérovingien. Fustel disait « un despotisme tempéré par l'assassinat ». Nous l'avons vu avec Malek Chebel, les Sarrasins et les Maures derrière l'émir Abdarrahman ont largement débordé les Pyrénées pour s'installer en Béarn, en Comminges, dans les Corbières, dans le Languedoc. Autant dire qu'ils empiètent grandement sur les terres du duc d'Aquitaine, à l'époque le duc Eudes, qui ne cesse de les affronter aux quatre coins de son domaine. En 721, Eudes a donc infligé aux Sarrasins une très sévère défaite. Il a dû penser lui-même qu'il mettait un coup d'arrêt à l'expansion omeyyade, mais il n'en sera rien. Par petites étapes, en multipliant les razzias, les expéditions ponctuelles, les populations militaires sarrasines gagnent du terrain. C'est de cette époque, du reste, et de ces occupations plus ou moins pacifiques que date, dit-on, l'implantation dans le sud-ouest d'un plat qui, à l'origine, était andalou, le cassoulet. Eudes d'Aquitaine, soulignons-le, est alors en conflit avec ses voisins francs du nord et de l'est, mais il lui faut reconnaître ses limites, il est coincé, si vous voulez, entre francs et sarrasins, et finalement, au tournant des années 730, il lui faut, à son grand dépit, on l'imagine, faire appel au maire du palais d'Austrasie, au grand chef franc Charles Martel. À l'époque, on ne l'appelle pas encore Martel, il semblerait, pour autant qu'on le sache, que ce surnom lui soit venu plus tard, probablement du fait de la pression terrible qu'il ait fait subir aux Provençaux, qui donc l'avaient surnommé le Marteau. Donc, le duc d'Aquitaine ne peut pas endiguer la poussée tous azimuts des Sarrasins et des Maures d'Abdarrahman, qui s'infiltrent vers le nord, qui pillent donc Poitiers, qui s'en prennent ou menacent de s'en prendre à Saint-Martin de Tours. Charles Martel met sur pied une immense armée de fantassins francs et germains, et c'est sur le mur, sur le front de cette armée que vont venir se heurter les cavaliers arabes. Vous savez, des escarmouches ont lieu, on ne sait pas exactement où situer cette bataille et ni quand, parce que des escarmouches ont lieu pendant longtemps, probablement plus d'une semaine, peut-être deux. On n'est donc pas, je vous l'ai dit, à Poitiers même, mais sur les terres de Poitou, sur la voie reliant la capitale pictave à Tours. Il semble que l'affrontement en tant que tel ait finalement duré deux jours, les cavaliers d'Abdarrahman venant donc s'empaler littéralement sur les lances pointées des fantassins francs. La mêlée, si l'on en croit les chroniqueurs des deux camps, a été très meurtrière. Les Maures, semble-t-il, étaient à la fois lestés par leur butin et trop attachés à des familles qui suivaient toute l'armée. Abdarrahman lui-même est tué, où l'on songe au vers de Corneille, n'est-ce pas ? Contre nous de pied ferme, ils tirent leurs alfanges, de notre sang au leur font d'horribles mélanges, et la terre et, le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Après une journée d'engagement et une nuit de récupération, Charles donne l'ordre à ses hommes d'aller attaquer les arabo-berbères dans leur camp même, sauf que le camp en question, il le découvre abandonné. Alors, il y a plusieurs explications à cette défaite cuisante des arabo-berbères. Ils étaient loin de leur base, ça c'est certain. Ils étaient donc encombrés, et notamment encombrés de familles. Il faut penser aussi au renfort du duc d'Aquitaine. Longtemps, on a prétendu que les cavaliers francs avaient été aidés par une innovation technologique, si je puis dire, c'est-à-dire par les étriers sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour porter leur coup. En vérité, l'immense masse des guerriers francs étaient en l'occurrence des fantassins. On s'en rend compte, cette bataille doit beaucoup à la légende. Les chroniqueurs qui arrivent tard et qui souvent sont elliptiques font la part belle à l'imagination. Dans 4000 ans de mystification historique, Gérald Messadier, qui était venu nous parler de son livre ici même, nous dit qu'en vérité, la victoire de Charles Martel lui permet de se poser en sauveur de l'Aquitaine, qui passe bientôt sous la coupe des royaumes francs, Austrasie-Neustrie-Bourgogne, c'est-à-dire sous sa propre coupe. Il ne la laissera pas oublier. Son frère Childebrand la célébrera dans sa chronique et l'escarmouche est immortalisée, magnifiée, exaltée par la chevalerie, les chroniqueurs, les troubadours, tous toujours en quête d'héroïsme. Lettrés et copistes qui appartiennent dans leur majorité à des ordres religieux prendront le relais et en 750, un chrétien d'Espagne qu'on désigne comme l'anonyme de Cordoue évoque un déferlement d'Européens, rien de moins, comme si les croisades avaient commencé dès le 8e siècle. Sans doute faut-il attribuer son exagération à la frustration d'un chrétien contre une religion à laquelle il ne comprend rien et qu'il déteste évidemment, car l'Espagne a été christianisée depuis le début du 4e siècle.